Ça s'appelle « Sans faire plus d'histoire ». OK, c'est le nom du livre. Et Anne de Léan est l'auteur, voilà. C'est les anecdotes méconnues qui ont fait le Québec. Et je vous le dis, là, d'abord, parlez-nous de la bombe.
Oui.
Il a failli avoir une bombe atomique.
Ben, il a failli, il a presque eu une bombe atomique.
En fait, il y a eu une moitié de bombe atomique.
Une moitié de bombe atomique.
Qui est tombée sur un village du Québec.
Exactement. C'était il y a presque 70 ans. C'était en 1950, le 11 novembre. Il y a une bombe. En fait, il y avait, pendant la guerre froide, les Américains puis les Canadiens avaient une base militaire qui était à Goose Bay.
Goose Bay, oui.
Oui, au Labrador. Et les Américains avaient entreposé des bombes Mark IV, c'est des bombes nucléaires. Et cette journée-là, ils faisaient des vols de routine. Et pendant un des vols de routine, il y a eu une panne mécanique au-dessus du Saguenay. Donc, le protocole veut, quand on transportait une bombe Mark IV, de la défaire en deux morceaux et de jeter la charge explosive. Parce qu'elle était faite en... Il y avait une charge nucléaire et une charge explosive. Mais dans la charge explosive, il y avait aussi 45 kg d'uranium appauvri. Donc, eux, devant la panique là, concernant le bris mécanique, ils ont calculé avec les vents puis la topologie de la région et ils ont décidé de lâcher la bombe, l'engin...
La charge explosive.
Exactement, au-dessus de Saint-André-de-Kamouraska, au-dessus du fleuve. Donc, comme il y avait de l'uranium appauvri, ça a fait vraiment une explosion jaune et avec un gros nuage. Puis les gens ont été très, très, très surpris. Et curieusement, dans les journaux, on n'en a presque pas abordé.
Pas curieusement, honnêtement.
Oui, effectivement.
Les autorités ne se vantent pas de ça habituellement. Là.
Exactement. Donc, ça a été peu abordé. Puis, 50 ans plus tard, quand les documents sont devenus publics, ben, les gens ont appris avec stupeur qu'effectivement, c'était une bombe atomique et ce n'était pas une vulgaire bombe régulière là, qui avait été lancée. C'était un secret militaire.
Quelle explication on avait donnée à ce moment-là?
Que c'était un test, que c'était des bombes, des vieilles bombes de la Deuxième Guerre mondiale, que c'était des... Donc, tout était dans le flou. Donc, pendant longtemps, les gens n'ont pas su...
Incroyable.
Qu'il y avait eu une explosion nucléaire à Saint-André-de-Kamouraska.
Parlez-nous des nazis qui ont failli acheter l'île d'Anticosti.
Oui, en fait, l'île d'Anticosti était possédée par... il y avait une compagnie de pâte et papier qui était établie là et puis c'était pas assez rentable. Ils ont décidé en 1937 de la mettre sur le marché. Ils ont eu des offres de partout dans le monde. Mais une a retenu leur attention et elle était pilotée par un financier de Montréal. Et curieusement, au cours du processus, c'est un banquier de Amsterdam qui a repris le dossier. Et puis, lui représentait des intérêts allemands, des pâtes et papiers. Et ils ont envoyé des 13 inspecteurs pour aller vérifier l'île, la topographie, tout ça. Et curieusement, ben, pendant qu'ils étaient à l'hôtel, juste avant de partir à l'île d'Anticosti, il y avait un journaliste qui les a entendus parler et il a sonné la sonnette d'alarme en disant « Mais ces gens-là sont pas juste là pour les pâtes et papiers. J'ai l'impression qu'ils sont là pour plus, qu'ils sont peut-être là pour des intérêts militaires. » Donc, il y a eu un tollé que j'explique en détail dans le livre
oui.
pour finalement découvrir après la guerre, parce que l'offre d'achat est tout simplement tombé, que ce financier-là d'Amsterdam était un très grand ami de Hermann Göring, qui était l'homme de confiance de Hitler. Et ce financier-là avait même organisé un party d'anniversaire pour Hitler, pour un de ses anniversaires, dans sa résidence.
Donc, l'idée, c'était quoi? D'installer une base militaire éventuellement à Anticosti?
On ne saura jamais... Si c'était vraiment économique ou si c'était militaire, mais entre vous et moi, avoir l'île d'Anticosti, ça aurait été une très bonne porte d'entrée lors de la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, puis on se rappelle, il y a eu des sous-marins allemands, nazis, qui se sont... qui ont pénétré, en fait, à l'intérieur des terres et qui sont venus quand même assez proches. Je pense que c'est passé Rimouski, même.
Oui.
Certains, hein? Ouais, voilà. Oui. Les camps de travail pendant la Dépression, vous les appelez les camps Vincennes?
Oui, en fait, après le crash de 1929, il y avait un taux de chômage très élevé au Québec. Et le gouvernement a remarqué qu'il y avait plusieurs jeunes hommes célibataires qui se promenaient de ville en ville en recherche de travail. Mais ça a commencé à faire un peu de grabuge. Donc, ils ont décidé d'ouvrir des camps de travail pan-canadiens où on fournissait en échange de 20 sous par jour ainsi que le gîte et le couvert, du travail à ces hommes-là. Mais c'était des camps très difficiles où ils faisaient des travaux d'intérêt public comme déneiger des chemins de fer ou construire des infrastructures. Mais l'hiver, c'était assez pénible.
Mais c'est 20 cents. Ça 20 donnait sous 20, par cents, jour. 20, oui. 20 sous par jour.
20 sous par
on
jour.
On te loge, on te nourrit.
Oui, et on te transporte au camp. Ça fait quelques années, mais après quelques années, les hommes ont commencé, premièrement, à s'ennuyer. Je pense qu'ils trouvaient ça plate. Et au camp de Valcartier à Québec, en 1935, ils ont eu besoin d'aide extérieure. Ils ont engagé 70 bricteurs de l'extérieur qui ne résidaient pas au camp et qui, malheureusement, étaient tous mariés et étaient payés 4 $ par jour. Donc, la révolution a pris. Ils ont déclaré la grève et finalement, le gouvernement fédéral a fermé les camps et ont retourné à la rue ces jeunes hommes célibataires.
Alors, voilà trois exemples d'histoires donc, qui se trouvent dans ce livre d'anecdotes ou d'histoires méconnues. Il me reste une minute, Anne de Léon. Évidemment, vous sortez votre livre pour le Salon du Livre, mm-hmm. Puis pour Noël, honnêtement. Oui. Bon. D'ailleurs, il coûte combien, votre livre?
27,95.
OK, il est déjà en distribution, là.
En distribution.
Est-ce que c'est un premier volume qui sera suivi de d'autres?
En fait, c'est le deuxième volume.
Ah, c'est le deuxième?
Oui, le premier est sorti en 2014.
OK.
Et puis, il me restait encore d'autres histoires. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle « Sans faire plus d'histoires
».
Parce que
voilà.
Sans faire d'histoire.
Ah oui, OK, Sans faire d'histoire, c'était
publié.
Le premier.
Oui.
Très bien. Là, donc, c'est le dernier?
Oui, probablement.
Oui, c'est vrai, ça a demandé beaucoup de travail.
C'est beaucoup de travail, puis c'est beaucoup de travail pour départager les légendes urbaines.
J'allais dire, il faut être rigoureux, là.
Oui. Oui, des vrais faits. Puis trouver toutes les photos et tous les documents d'appui a demandé beaucoup de travail.
Oui, oui. Puis il y a une corroboration, une vérification qui est faite là par des historiens.
Oui,
hein?
Des historiens.
Monsieur Tessier, notamment.
Monsieur Tessier,
hein?
oui, c'est ça. Relu le manuscrit.
Oui, voilà, exactement. Mais bravo. Est-ce que vous êtes historienne vous-même?
Pas du tout.
Non?
Pas du tout.
Mais moi, vous avez décidé de vous intéresser à l'histoire comme
Oui, moi, je suis réalisatrice en télévision et au cinéma. Moi, j'aime raconter des histoires. Donc,
voilà.
C'était ce que je faisais dans mes loisirs.
Très bien. Anne de Léon, donc auteure de « Sans faire plus PLUS d'histoire, anecdotes méconnues qui ont fait le Québec », c'est publié aux éditions de L'Homme. Bonne chance. Bravo.
Merci beaucoup.
Dans un instant, Patrick Lagacé.